Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Chaque samedi de cet été, nous recevons un acteur important de l'économie ou un économiste pour nous aider à comprendre ce que nous vivons et évoquer les enjeux qui sont devant nous. Depuis le début du mois de juillet, se sont succédés à ce micro la présidente de la Banque Centrale Européenne, les dirigeants de Stellantis, Sanofi France et Total Energy, ainsi que l'économiste Patrick Artus, entretiens qui peuvent naturellement être trouvés sur le site de France Inter. Et ce samedi, nous recevons un autre économiste, Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc Daniel.
Bonsoir.
Vous allez répondre à mes questions, puis à celles d'étudiants ou de jeunes actifs qui sont ici avec nous dans le studio et que je salue. Ce samedi, deux viennent de Sciences Po Paris et l'un travaille dans la finance après l'ENSAE, l'école publique de statistique.
L'écho de l'été, Dominique Seux, sur France Inter.
Jean-Marc Daniel, vous avez été professeur à l'ESCP, vous avez publié une quinzaine de livres, vous êtes très prolifique, et vous êtes très présent dans les médias, vous tenez notamment une chronique quotidienne sur la radio spécialisée BFM Business. Et vous avez, il faut le dire, une particularité assez rare en France, vous vous revendiquez comme un économiste libéral, alors un libéral franc, pas un libéral mou, ça suscite naturellement beaucoup de questions, vous vous en doutez, et puis surtout actuellement. Mais d'abord, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question que je pose à tous nos invités. Cet été, quelles sont les leçons générales? Peut-être même, allez, on ne parle pas d'économie là, on parle peut-être même de réponses personnelles. C'est-à-dire, quelles sont les leçons générales que vous tirez des 18 à 19 mois que nous venons de vivre, cette crise du Covid dans laquelle nous sommes encore un peu?
Oui, alors il y aura quand même dans mon commentaire une partie qui sera une leçon économique. Il y a une partie quand même qui me frappe sur le plan économique. Mais d'une façon générale, indépendamment d'ailleurs des approximations et des hésitations de nos dirigeants ou des improvisations, il y a trois éléments qui m'ont frappé. Le premier, c'est, alors ça c'est une réflexion assez générale, c'est le retour de ce que j'appelle le paganisme. C'est-à-dire...
Le paganisme.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas en phase d'islamo-gauchisme comme certains le prétendent, mais en phase de pagano-gauchisme pour moi.
Alors là, c'est-à-dire, il faut une explication un peu
longue. Donc le paganisme, c'est-à-dire la vision dans laquelle on condamne le système, on l'accuse au nom de l'agression qu'il fait de la nature. Et un certain nombre de gens ont dit que la pandémie, finalement, ce n'est jamais qu'une réponse, une sorte de punition que la nature nous imposerait. Et donc, vous avez une sorte de discours qui s'est développé. On le voit aussi dans le discours sur la vaccination. C'est-à-dire, non, la science n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est une forme de contrition. Le monde d'après, nous a dit le président de la République, sera écologique, solidaire et souverain. Et donc, il y a cette espèce de fascination pour la nature qui me paraît être un recul, mais avant Descartes, même avant le christianisme, c'est-à-dire on en revient à Hésiode.
C'est ça qui vous a frappé le plus dans cette crise.
Alors après, hein. Voilà. Alors après les deux autres marches, la fascination pour la dépense publique, ça m'a pas surpris, mais cette idée qu'on peut substituer sans problème de la dépense publique au travail, ouais. Ça m'a paru à la fois consternant mais tout à fait prévisible. Et puis
ça, on va en parler beaucoup.
Oui. Mmh. La troisième chose, c'est la mutation du travail. Quand même, on a découvert avec le télétravail, le numérique, que finalement, on pouvait très bien exercer son activité sans être présent sur le site ou sur un site particulier. Et là aussi, c'est un retour à un monde un peu passé. Le paysan du XVIIIe siècle, il vivait sur son lieu de travail. Il ouvrait sa porte et il était en face du champ. Il vivait sur son lieu de travail. Et aujourd'hui, on va pouvoir de nouveau travailler depuis son domicile. On va de nouveau avoir comme lieu de travail son domicile.
Et ça, donc, je pense que c'est des leçons historiques à chaque fois.
Oui.
Nous revenons vos yeux dans une sorte de passé un peu mythologique aussi.
Oui, absolument.
Mythique peut-être.
Absolument. Et donc, mais le père, alors, pour reboucler sur le paganisme, le paysan du XVIIIe siècle, il avait comme moyen de se socialiser le christianisme. Le télétravailleur d'aujourd'hui, il n'a plus aucun moyen de se socialiser parce que la religion actuelle, elle est purement punitive. C'est vous attaquer la nature.
Voilà vos leçons générales. Mais alors, évidemment, à l'économiste, maintenant, je pose cette première question, bon, un peu provocatrice, pardon. Être libéral aujourd'hui, c'est un peu être malheureux parce que l'État n'a jamais autant intervenu dans la vie économique et la vie de tous les jours depuis très très longtemps. Au fond, il a soutenu l'économie à bout de bras. Rien n'est libéral aujourd'hui. Au fond, est-ce que le virus a tué le métier que vous exercez, celui d'économiste libéral?
Non, je pense qu'au contraire, il lui a donné un nouveau statut. celui d'être prémonitoire, d'être précurseur. C'est-à-dire, pour l'instant, on est relativement seul, effectivement. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que l'État a commencé par tuer l'économie. Si l'économie a été plongée dans la récession, c'est parce qu'on a empêché les gens de travailler.
Oui, enfin, c'est le virus qui est...
Oui, mais c'est...
Qui a tué la vie en société.
Oui, c'est le virus qui a été la cause de...
C'est pas l'État.
Non, c'est pas l'État.
Vous faites porter un chapeau un peu grand, là.
Oui, les 55 jours de confinement que nous avons vécu en France, les vrais 55 jours, ceux du printemps 2020, parce que le deuxième et troisième confinement étaient quand même très édulcorés par rapport à ces 55 jours, et ce sont eux qui ont fait que l'économie française a plongé de 10% en l'année 2020, un peu moins de 10%. Mais d'autres pays ont fait d'autres choix. Alors, là aussi, l'histoire tranchera, mais la Suède, par exemple, a pas fait le même choix. Elle n'a pas eu des résultats sanitaires, apparemment.
Elle
s'en est un peu mordu les doigts, mais c'est pas aussi dramatique que ce qu'on lui annonçait, ce qu'on lui prédisait. Et elle a retrouvé son niveau de production de la fin 2019 dès le début 2021. Donc, elle a effacé très rapidement les conséquences économiques de la pandémie. Donc, il y a des choix qui ont été faits. Ces choix sont des choix, effectivement, qui ont, à mon avis, été relativement improvisés, relativement faits dans la panique. On a commencé par nous dire c'est une grippette, puis ensuite vous allez être confinés 15 jours, ensuite on a été confinés 55 jours, puis on nous a dit le 11 mai vous allez être déconfinés, puis on nous a dit mais c'est un objectif. Donc, je crois que c'est l'État a désorganisé autant qu'il a résolu les problèmes.
Mais en même temps, Jean-Marc Daniel, l'intervention de l'État qu'on a constaté depuis le début de la pandémie, en réalité, l'État était déjà revenu. On a parlé du protectionnisme, on se souvient la guerre déclenchée par Donald Trump contre la Chine. On parlait de retour des frontières un peu partout. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un cycle économique qui, avec cette crise, s'est un peu terminé, un cycle ouvert dans les années 80-90, et au fond, la crise n'a été qu'un accélérateur d'une tendance déjà à l'œuvre.
Alors, il n'y avait jamais eu de véritable disparition de l'État, notamment en Europe, puisque l'État-providence a continué à subsister, et les programmes de privatisation qui avaient été associés aux politiques de Reagan et de Thatcher, et que l'on mettait au centre de la définition de ce qu'on appelle le néolibéralisme, une expression que j'aime pas beaucoup, parce que je vois pas ce que c'est par rapport à l'ancien libéralisme, à l'archéo,
Il est vrai que personne n'en a de définition.
Une vraie définition. À part une insulte, je vois pas très bien ce que c'est le mot néolibéral. Mais donc, ces programmes-là n'avaient pas réduit considérablement les dépenses publiques. Il y avait assez peu de pays qui avaient réduit leurs dépenses publiques. On avait plutôt assisté, à mon avis, à une crise de l'idéologie étatiste. C'est-à-dire, la social-démocratie traditionnelle, d'ailleurs, s'est effondrée un peu partout. C'était elle qui portait l'idéologie étatiste. Et même l'extrême gauche ne sait pas très bien comment proposer un programme de...
Donc les idées libérales ne sont pas mortes.
Non, les idées libérales ne sont pas mortes. Elles le sont d'autant moins que les idées collectivistes, donc le communisme traditionnel, ont véritablement été balayées par l'histoire. Et la social-démocratie doute d'elle-même, c'est le moins qu'on puisse dire.
Comment a été gérée cette crise, au fond ? Alors, parlons de la France, là. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous avez un regard critique ou pas sur la façon dont la crise a été dont l'État a tenu l'économie à bout de bras à coût de centaines de milliards d'euros?
Oui, je pense que la critique est aisée, mais l'art a été particulièrement difficile et je me mets à la place des dirigeants, aussi bien le président de la République, le Premier ministre, les deux Premiers ministres et Bruno Le Maire qui a quand même joué un rôle très important dans cette crise. Je pense qu'ils ont été, leur action a été plutôt honorable.
Honorable.
Mais il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a trois erreurs, à mon avis, qui ont été faites. La première erreur, ça a été de vouloir répondre à la crise, et notamment à la sortie de crise, à la sortie du confinement, par des outils assez traditionnellement de relance, en ne voyant pas que c'était totalement inapproprié. Je mets souvent en avant, je me moque assez souvent du fait qu'ils ont répondu à la récession par la réintroduction d'un Paris-Nice de nuit. Ouais. En chemin de fer, en train.
C'est un raccourci, si j'ose.
Oui, c'est un peu brutal, mais enfin, c'était un peu ce qu'il y avait dans le plan de relance. C'était, on va relancer, rassurez-vous, on va effacer la récession, on va réintroduire des trains de nuit et donner 50 euros pour les gens qui réparent leur vélo. Ça me paraissait pas
vrai. Le chômage partiel, il fallait faire.
Oui. Alors, je vais revenir sur les éléments positifs. La deuxième erreur, c'était l'idée du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire de considérer que la dette ne pouvait jamais être un problème. Et la troisième erreur, c'est de ne pas voir quand même que, avec le quoi quoi qu'il en coûte, avec ces tombereaux de crédits qui ont été déversés, on négligeait le rôle du travail. On avait l'air de considérer que le travail et la dette, c'était la même chose. On pouvait choisir l'un et l'autre, avec le fait que c'était pas grave de s'endetter. Alors les bonnes choses, oui. Je crois qu'il y a de nouveau trois éléments qui sont d'assez bonnes choses. Le premier élément, je crois, c'est d'avoir essayé, effectivement, de limiter les conséquences de la crise sur le revenu, avec le chômage partiel, avec le maintien du revenu de l'ensemble de la population. Le deuxième élément, c'est les PGE, c'est-à-dire
les prêts garantis par l'État,
d'avoir à la fois soutenu les entreprises et d'avoir associé au travers du mécanisme de prêt le système bancaire. Et le troisième élément, c'est d'essayer de trouver une solution européenne, même si la solution européenne n'a pas été, à mon avis, la bonne. C'est-à-dire il aurait mieux valu essayer de tirer des leçons de ce que faisaient les Suédois que d'essayer de faire un emprunt européen.
Vous avez écrit un livre qui est paru au mois de mai dernier. Alors, j'en donne le titre, mais il faut en donner l'orthographe également. « Il était une fois l'argent magique, compte et mécompte pour les adultes ». Alors, compte, C-O-N-T-E-S, les comptes pour enfants, hélas, sont pour les adultes, aux éditions Cherche Midi. C'est quoi l'argent magique, en fait? Est-ce que c'est l'argent de l'État budgétaire ou c'est des politiques monétaires?
C'est les deux. C'est le fait que l'État puisse s'endetter en ayant la conviction que ça n'a aucune conséquence sur ses comptes à venir, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, un, pour acheter la dette, donc il n'est pas soumis à la pression des marchés, il n'est pas soumis à l'angoisse de trouver des prêteurs, il y aura toujours un prêteur qui est la Banque Centrale, et deux, non seulement ce prêteur sera toujours là, mais en plus, le fait d'obtenir des prêts indirectement, hein, puisque la Banque Centrale n'a pas le droit d'acheter en direct la dette publique, elle la rachète au système bancaire qui, lui, l'a achetée en direct. Et donc, la Banque Centrale rend gratuite la dette publique. C'est-à-dire qu'une fois que l'État verse des intérêts à la Banque Centrale, qui par ailleurs est propriété de l'État, va reverser ses intérêts à l'État.
Est-ce que c'est dangereux ou ce sont des illusions? Ou les deux?
Alors, d'abord, c'est une illusion, c'est-à-dire, encore une fois, on en revient à cette idée que, finalement, le travail et la dette, c'est la même chose, et donc, suivant les circonstances, on va appuyer sur plutôt la pédale travail, plutôt sur la pédale dette. Et donc, cette illusion est dangereuse, parce que la richesse, c'est quand même du travail. C'est pas parce qu'on dépense qu'on est riche, c'est parce qu'on est riche que l'on va pouvoir dépenser. On est riche parce que l'on a travaillé. Et la deuxième chose, c'est dangereux parce qu'on ne voit pas immédiatement les conséquences négatives, et on les voit d'autant moins...
Pour l'instant, il y a une sorte de morphine générale, d'anesthésie générale.
Et quand on dit, vous savez, les
mais
dangers...
Mais pour l'instant, ça tient en même temps.
Ça tient, mais effectivement, parce qu'on se dit, c'est le seul danger, c'est que l'État ne trouve pas de prêteur, et il en trouve toujours, bien sûr qu'il en trouve toujours, puisqu'il y a la Banque Centrale. Donc c'est pas ça le danger. Pour moi, le danger, c'est le fait que, il y a une demande qui est supérieure à l'offre, une demande qui est supérieure à la quantité de travail, eh bien, on déséquilibre les comptes du pays et non pas les comptes de l'État. Les comptes de l'État sont déséquilibrés, mais à la fin, c'est les comptes du pays.
Alors pourquoi? Parce que l'épargne ne sera plus disponible pour les investissements des entreprises?
Non, parce que quand vous donnez de l'argent à quelqu'un qui n'a pas du travail en face, cet argent va devenir quand même l'achat de quelque chose, et ce quelque chose, ce sera des importations. Et donc, nous avons...
En fait, vous ne craignez pas spécifiquement une crise financière dans les années qui viennent?
Non.
Tant que les banques centrales maintiennent la politique dite accommodante, et tant qu'il n'y a pas d'inflation, et pour l'instant, c'est très controversé, le retour de l'inflation... Vous dites, ça va tenir.
Ça va tenir avec simplement comme conséquence que tous les pays qui vont faire ces politiques vont être en déficit extérieur. Donc, ils vont envoyer du pouvoir d'achat, de la capacité d'acquisition dans d'autres pays et ils vont être bientôt les propriétés de ces pays. Grosso modo, le monde est en train de se vendre progressivement par les déficits.
En gros, les pays développés se vendent à la Chine.
À la Chine, au Japon.
Pas seulement.
Et surtout au Japon et à l'Allemagne.
Le vrai danger de la sortie de crise, c'est ça. C'est pas, le vrai danger du quoi qu'il en coûte, c'est pas combien ça coûte, c'est à la fin, en fait, il y aura de nouveaux propriétaires pour les actifs des pays développés.
Absolument. Vous savez, on dit que la dette publique pénalise la génération d'après. Alors, ça dépend où elle est, la dette publique. Si la dette publique est détenue par des Français, si la dette publique française est détenue par des Français, ça pénalise pas les Français. C'est-à-dire que les intérêts versés par les Français sont versés à d'autres Français qui sont dans la même génération. Donc, ça fait simplement un transfert au sein du pays, entre les gens qui détiennent la dette et les contribuables.
Mais la bonne solution pour vous, pour solder cette crise quand elle sera finie, c'est de travailler plus.
De travailler plus, en particulier avec un objectif de redonner de la compétitivité à l'économie française et de lui permettre de rééquilibrer ses comptes extérieurs. Vous savez que nos comptes extérieurs sont plus déséquilibrés en ce moment qu'ils ne l'étaient en 81-82. Et donc en 81-82, on a été obligé de serrer la vis. Et là, on n'a pas besoin de serrer la vis, puisqu'on est dans la zone euro, et donc tout ça est noyé dans l'excédent extérieur de l'ensemble de la
zone
euro.
Mais travailler plus, c'est-à-dire mettre fin dans un pays comme la France, c'est la retraite qu'il faudrait relever, l'âge légal de la retraite qu'il faudrait relever, c'est la durée hebdomadaire qu'il faudrait revoir, c'est un changement complet à nouveau. Vous aurez du mal à vous faire entendre sur ce genre de choses.
Oui, je pense qu'il y a, trois façons de travailler plus. Effectivement, c'est de constater que les 35 heures, c'est un échec. Un échec par rapport au discours officiel. Je rappelle que le but des 35 heures, initialement, c'était de réduire le chômage. C'était quand Mitterrand avait dit contre le chômage, on a tout essayé, poussé dans ses derniers retranchements, il avait dit non, il y aura une solution qu'un autre que moi mettra en œuvre, c'est les 35 heures. Bon. Et on voit le résultat. Donc je pense que les 35 heures sont obsolètes. Je pense qu'il faut effectivement reporter l'âge de départ à la retraite, moins d'ailleurs, encore une fois, pour équilibrer le système, qui a besoin d'être équilibré, que pour susciter du travail. Et puis, il faut alléger les contraintes sur l'entrée sur le marché du travail. C'est-à-dire... On a des réserves de chômeurs qui sont colossales. La réflexion que se font les gens quand on dit ça, c'est de dire, mais il n'y a qu'à mettre les chômeurs au travail. Or, ils ne sont pas au travail. Et là, je pense qu'ils ne sont pas au travail, il y a un problème de formation. Et puis, on le voit bien, l'ubérisation de la société favorise l'insertion sur le marché du travail. Il faut arrêter de pourchasser l'ubérisation de la société.
D'accord. Et parce que je vous entends, je vous écoute, mais une petite voix en moi dit, mais il y a d'autres solutions que proposent des économistes ou des responsables politiques, qui est ne pas travailler plus, mais demander plus à ceux qui ont beaucoup déjà, et faire contribuer sur le plan fiscal par exemple, ceux qui ont beaucoup pour redresser les comptes publics après cette crise. Ça que dit l'économiste libéral que vous êtes là-dessus?
Alors, en apparence, ça ne redresse pas les comptes publics. D'abord, ça ne redressera pas les comptes extérieurs. C'est pas ça qui redressera les comptes extérieurs, parce qu'il y aura toujours du pouvoir d'achat qui sera distribué à une partie de la population qui se traduira par des importations. Donc, on manquera toujours de travail. C'est pas en transférant, c'est pas en appauvrissant les riches qu'on résout le problème, c'est en créant de la richesse. Et la deuxième chose, c'est que il faut pas se faire d'illusions. Lorsqu'on détruit la richesse qui a été la récompense sous forme de richesse de celui qui est du créateur, on détruit l'incitation à investir. On l'a bien vu avec l'ISF. L'ISF, c'était pas des sommes colossales, l'ISF, c'était 5-6 milliards. Bon. Donc, et l'ISF, c'était devenu le symbole à la fois d'un état d'esprit, on va détruire les riches, et devenu aussi un élément qui handicapait l'investissement, les gens partaient.
Mais les inégalités sont une donnée, il faut faire, c'est comme ça, point barre, ou est-ce qu'on les corrige d'une manière ou d'une autre? Si c'est pas par le biais fiscal, que fait-on?
Alors, je pense que, d'abord, le discours sur les inégalités est assez récent. Quand vous regardez, notamment, je regardais ça récemment, le programme du Front Populaire, il n'y a pas une seule fois le mot inégalité. Il y a tout le temps le mot pauvreté. Le but du Front Populaire, c'est de s'intéresser aux pauvres.
Mais les écarts de revenus n'étaient pas les mêmes non plus.
Ils étaient beaucoup plus importants que maintenant. Et il y avait, à l'époque du Front Populaire, ils étaient beaucoup plus importants que maintenant, et il y avait des gens qui étaient véritablement pauvres. Et l'enjeu, c'est ça, c'est de réduire la pauvreté. Vous savez, il y a une formule célèbre de Kennedy qui dit « La différence qu'il y a entre les communistes et moi, c'est que les communistes veulent abaisser les riches, et moi, je veux relever les pauvres. » Je pense donc que l'enjeu de notre société, c'est de relever les pauvres. C'est-à-dire de donner du travail, d'assurer davantage de formation, de bien-être à la population qui est la plus défavorisée. Et c'est pas en rétablissant l'ISF qu'on résoudra ce genre de questions.
Une dernière question avant la pause musicale. Est-ce que vous sentez un peu seul en France comme économiste libéral? Comment est-ce que vous pouvez qualifier le terreau des économistes en France? Il y a plusieurs écoles, il y a des économistes qu'on entend beaucoup comme Thomas Piketty. Est-ce qu'il y a est-ce que vous vous sentez un petit peu isolé?
Oui, relativement, je vous cache pas que
vous aimez cette position.
Oh, c'est pas désagréable, en ce sens que effectivement, c'est l'histoire de Cyrano, c'est l'histoire de l'albatros chez Baudelaire, c'est voilà, exilé sur le sol au milieu des huées, bon voilà, donc voilà. Mais j'ai pas la prétention d'avoir des ailes de géant. Donc ce qui me frappe dans le débat économique, c'est qu'il y a un débat économique aux États-Unis qui est plus riche parce que il y a des idées nouvelles qui apparaissent. La théorie monétaire moderne aux États-Unis est en train de révolutionner le keynésianisme. Or, on a assez peu de gens qui la développent et la comprennent en France. La nouvelle macroéconomie classique avait et continue à révolutionner la pensée libérale. On a assez peu de gens, à part moi, qui défendent les idées néo-ricardiennes et anciennement ricardiennes. Et donc, je trouve que ce qui est le plus concernant en France, c'est moins le fait que je sois seul, c'est le fait que le débat ne soit pas à la hauteur de ce qui peut être dans d'autres pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis.
Nous essayons ici aussi d'animer ce débat. Voilà pour la première partie de cet échange. Une pause musicale avant de laisser les étudiants qui sont dans ce studio dialoguer avec vous.
je l'ai revu au coin de la rue. Il voulait me faire croire au hasard. J'avais toujours voulu le revoir. Et il était soudain réapparu. Je l'ai emmené chez moi pour qu'il revoie tous les portraits qu'il avait fait de nous. Ceux des gens qu'on n'avait pas revus. Le soir venant, il est retourné à la rue. Le soir venu, je pensais à lui. Sa bouche la même et ses yeux pointus. Sa voix, il n'avait rien perdu. C'était le même que j'avais aimé, que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Il est revenu, les poings serrés et la bouche cousue. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassé et il a tout gardé.
C'était François and the Atlas Mountain, revue.
L'écho de l'été sur France Inter.
Nous sommes toujours avec l'économiste Jean-Marc Daniel. Une première question de Romain Forestier, qui est étudiant master de finance et stratégie à Sciences Po Paris et à l'université Bocconi de Milan. Il travaille actuellement dans une agence d'innovation JEDI. Romain.
Oui, bonjour Jean-Marc Daniel. En début d'émission, vous nous disiez que l'État résout les problèmes qu'il crée. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des solutions géniales qui ont été apportées grâce à l'État. Je pense aux vaccins, donc développés grâce à des labos pharmaceutiques. Mais il y a eu un gros accompagnement financier de l'État via l'achat, mais via le financement de la recherche, de la production. Donc est-ce que les vaccins, ça ne nous montre pas que, voilà, avec le Covid, on a besoin d'un État stratège, on a besoin d'un État au centre de l'économie ?
Non, je ne crois pas. D'abord, encore une fois, vous le rappelez, hein, bonsoir.
Bonsoir, oui.
Et donc, vous le rappelez, les vaccins, ils ont été mis au point par des laboratoires privés, certes, dans un partenariat avec l'État, mais l'idée que l'État soit stratège, que l'idée que l'État sache ce qu'il faut faire, et l'idée que l'État oriente l'avenir et fait des dépenses d'avenir est une idée qui a été infirmée, là aussi, par l'histoire. Moi, je passe mon temps à parler du plan calcul. Le plan calcul, c'était lorsque le général de Gaulle avait dit l'avenir, c'est l'ordinateur, et l'ordinateur, c'est l'État français qui va le construire.
Alors,
ça s'est terminé par des ordinateurs fabriqués par des entreprises.
Oui, mais il y a le plan calcul qui n'a pas marché, mais vous avez le plan Warp Speed aux États-Unis qui a très bien marché, qui fait qu'on a du Moderna, on a du Pfizer, et ça, c'est 10 milliards de dollars qui ont été mis sur la table dès printemps 2020. On n'y croyait pas, et pourtant, là, aujourd'hui, on est vacciné. Alors, grâce aux laboratoires pharmaceutiques, mais aussi grâce au financement via l'État américain. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples qui existent, hein, quand même, qui nous montrent bien qu'on a besoin de l'État stratège ?
Oui, on a besoin de l'État, mais pas de l'État stratège. On a besoin de l'État pour encadrer, on a besoin de l'État, effectivement, pour réaliser un certain nombre de commandes. C'est vrai que la commande militaire favorise, effectivement, un certain nombre de développements et de recherches. Mais vous le voyez, je prends un autre domaine, c'est l'État qui envoyait des hommes sur la Lune, et puis l'État a abandonné, et maintenant, c'est des entreprises privées qui vont prendre le relais. Et donc, je pense qu'à moyen terme, c'est l'initiative privée qui répond à la fois aux attentes des populations et qui répond au désir d'avenir.
Ça reste privé, mais c'est quand même un peu, c'est public privé. C'est-à-dire que SpaceX, Blue Origin, c'est des milliards de subventions via la NASA et via d'autres agences fédérales. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même un mix qui existe entre public et privé? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une troisième voie avec un État, alors pas stratège, mais en État, on va dire, agile, qui est capable de bien investir, d'investir intelligemment dans des boîtes qui fonctionnent pour les accompagner et pour accompagner l'innovation?
Non, je ne crois pas qu'il a intérêt à investir dans des boîtes. Je crois qu'il a intérêt pour favoriser l'innovation, à favoriser le niveau de culture générale et le niveau de formation. C'est-à-dire qu'il doit se montrer exigeant dans la formation des ingénieurs.
Quand on pense Moderna, c'est un PDG qui a été formé en France. AstraZeneca, c'est un PDG qui a été formé en France. Donc en fait, les talents, on les a d'une certaine manière.
Exactement.
Comment on les garde?
Exactement.
Alors on va laisser
Jean-Marc
de répondre.
Exactement. Ce qui est frappant, et je vous rejoins, c'est le succès de nos écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire, les centraliens sont particulièrement en avant dans le succès, les succès que vous citez. Et donc, on a un État qui a conservé un réseau d'écoles d'excellence, mais qui n'est pas capable de garder ses élites. Et donc, pourquoi il n'est pas capable de les garder ses élites? Parce qu'il a une fiscalité confiscatoire, et parce qu'il entretient un état d'esprit où, effectivement, le succès est vécu comme étant illégitime, et que le succès, toute personne qui réussit porte atteinte au sacro-saint principe d'égalité. Et je pense que si l'État français veut continuer à être à la pointe de la croissance économique, il va falloir garder ce réseau d'excellence sur le plan universitaire et arrêter de matraquer fiscalement les réussites.
Alors d'une certaine manière, c'est peut-être une question un peu politique, mais en France, ça va être difficile de baisser la fiscalité. Est-ce que c'est pas plus simple si on investit directement de manière intelligente plutôt que d'essayer de faire baisser les impôts à hauteur de milliards?
Non, je ne crois pas, parce que d'abord faire baisser les impôts à hauteur de milliards, ça obligera l'État aussi à repenser sa dépense. C'est par des mesures un peu fortes sur la fiscalité qu'on obligera l'État à se poser des questions sur ses dépenses, dont tout le monde dit qu'elles sont désormais pléthoriques. On dépasse la moitié du PIB, on est à 55% du PIB en vitesse de croisière. Et je pense en outre que, encore une fois, si vous laissez les gens, si vous faites confiance aux gens, vous avez plus de résultats que si vous essayez de les prendre en main, même en les subventionnant.
Merci Romain. Alors une question maintenant de Lucrèce Arnal-Broyel, qui est aussi à Sciences Po Paris. Lucrèce.
Bonsoir Monsieur Daniel.
Bonsoir.
Moi, j'ai une question sur les GAFA, puisque cet été, il y a eu la taxe GAFA qui a été mise en place par les pays de l'OCDE et l'administration Biden qui se montre de plus en plus critique envers les géants du net. Aujourd'hui, on parle même d'un possible démantèlement. Et donc, face au quasi-monopole des GAFA, est-ce que vous pensez que la meilleure option soit un démantèlement pur et simple?
Oui, dans votre question, vous avez commencé par parler de taxes et ensuite de démantèlement. Moi, je suis contre la taxe, et y compris d'ailleurs la taxe GAFA telle qu'elle a été conçue en France, qui est une taxe sur les exportateurs et qui pénalisera nos exportateurs. C'est-à-dire que si LVMH doit payer une taxe en Chine parce qu'elle fait ses bénéfices en Chine, c'est LVMH qui sera puni et les emplois en France qui seront punis. En revanche, démanteler les GAFA, je pense qu'on va vers un démantèlement des GAFA et je fais confiance à l'administration américaine pour le faire. Vous savez, pour moi, le grand homme aux États-Unis, c'est Roosevelt, mais pas celui auquel tout le monde pense.
C'est Theodore Roosevelt
qui, quand il a démantelé Esso Exxon, a dit à Rockefeller qui lui disait « Mais attendez, je travaille pour l'Amérique. » Et il dit « Oui, mais moi, je travaille pour les Américains. » Et les Américains, ils paient leur pétrole trop cher. Et donc, je pense que sur les GAFA, l'administration Biden doit tenir le même raisonnement. Je ne sais pas si elle le fera, mais elle doit tenir le même raisonnement.
Mais est-ce qu'un démantèlement, ça n'aboutirait pas uniquement à une baisse de la qualité du service et aussi à une diminution des investissements en recherche et développement ?
Non, je pense pas que les politiques de concurrence aient brisé en quoi que ce soit les capacités et les possibilités d'investissement des entreprises. Même au contraire, ça incite les gens une fois que vous avez fait apparaître de nouveaux concurrents, ça les incite à investir pour essayer justement de se distinguer, non pas par le monopole, mais par le fait qu'elles ont un produit et une efficacité qui est plus grande que celle de leurs
concurrents. La politique européenne de concurrence a été critiquée quand même, en disant l'Europe a été un peu naïve en empêchant la constitution de champions européens.
Oui, elle a été critiquée, mais pas par moi. Elle a été critiquée, et alors effectivement, elle a été critiquée, notamment je me souviens du rapport Gallois, elle est systématiquement critiquée par tous les protectionnistes de ce que le patronat protectionniste français est victime systématiquement de concurrence déloyale et organisée par Bruxelles. Non, la concurrence, elle est ce qu'elle est, et la politique de concurrence de l'Europe, à mon avis, est assez efficace.
Mais au-delà de la concurrence, ici, il y a aussi un problème par rapport à la captation prédatrice des données des utilisateurs par les GAFA. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est le démantèlement qui ne résoudra pas ce problème?
Oui, là où vous soulignez un problème, et où je vous rejoins, c'est le fait qu'effectivement, les entreprises en question ne sont pas comme une entreprise pétrolière ou une entreprise industrielle. Il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Sur Facebook, par exemple, le monopole est plutôt recherché par les consommateurs. Normalement, quand vous cassez un monopole et que vous faites de la concurrence, c'est pour favoriser le consommateur en faisant baisser les prix. Or, dans le cas de Facebook, le consommateur, il veut qu'il y ait plutôt un monopole, parce que si vous avez un monopole, le message que vous délivrez sur Facebook est beaucoup plus partagé que si vous êtes obligé de le mettre sur 25 entreprises, 25 réseaux. Donc vous avez donc des réseaux qui sont en situation de ce qu'on appelle un rendement croissant, et donc il faut pas les traiter de la même façon que ceux qui sont en rendement décroissant. Quant à la mise à disposition des données, je pense également qu'un des enjeux, c'est moins de casser la structure que de permettre l'accès à ce que détient la structure par d'autres. Et donc ça pose le problème aussi des brevets. Et donc les économistes réfléchissent à ça. Moi-même, je réfléchis à ça. Je pense que la solution n'est pas aussi facile que pour l'automobile ou le pétrole, mais c'est un vrai enjeu.
Alors, dernière question, dernière série de questions. Dugo Le Damanique est passé par l'ENSAE. Alors, l'ENSAE, vous connaissez très bien, vous avez été enseignant, je crois.
Et ancien élève.
Et ancien élève, après Polytechnique, l'École des statistiques publiques, et vous êtes, Hugo Le Damanique, économiste chez AXA, aujourd'hui.
C'est bien ça. Bonsoir, monsieur Daniel.
Bonsoir.
De mon côté, j'ai une question sur le rôle des institutions dans la lutte contre le changement climatique. Il y a quelques jours, la Commission européenne a dévoilé des propositions choc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et parmi elles, on retrouve une augmentation espérée du prix du carbone au niveau domestique, mais aussi une proposition d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Personnellement, je pense que leur rôle est important, puisqu'on a vu que le marché seul n'avait pas réussi à donner suffisamment...
Le rôle, ça veut dire le rôle des taxes.
Du marché ne suffisait pas pour donner suffisamment d'incitation justement pour que l'économie se transforme. Que pensez-vous personnellement de ces initiatives? Est-ce que vous les trouvez utiles et nécessaires surtout?
Alors je les trouve utiles et nécessaires, mais notamment sur la taxe carbone. Je pense que la taxe carbone, c'est un bon outil. Alors il faut quand même mettre en garde les pouvoirs publics. Les gilets jaunes, ça a commencé sur une affaire de taxe carbone, c'est-à-dire sur l'incapacité à définir un prix du carbone, à utiliser la taxe carbone pour définir ce prix, si bien que la taxe carbone a été perçue par les contribuables et par les automobilistes comme étant un moyen de boucher les trous des finances publiques. Et Dieu sait s'ils sont béants, ces trous. Donc je pense qu'il faut véritablement réfléchir à un prix du carbone, faire une taxe carbone qui monte en puissance, mais qui maintienne un prix du carbone régulièrement affiché, comme l'ont fait certains pays, comme la Suède.
Et l'Allemagne, qui a augmenté depuis le 1er janvier assez sensiblement, enfin de plusieurs centimes, presque 10 centimes, les prix de ces carburants.
Et il faut véritablement accepter l'idée aussi que l'enjeu, c'est le prix du carbone. C'est-à-dire quand le prix du pétrole augmente, s'il y a une flambée du prix du pétrole, si les pays pétroliers, la rente pétrolière des pays producteurs augmente, il ne faut pas pénaliser de façon brutale à ce moment-là l'automobiliste et l'utilisateur du carbone quel qu'il soit. Il faut véritablement afficher le prix du carbone, il va être de tant telle année et puis il va augmenter de 10% l'année après, de 10% l'année d'après. Ceci étant dit, je ferai deux remarques complémentaires très rapides. La première, c'est qu'il faut prendre des engagements qui soient tenable, sinon on crée le dieselgate, c'est-à-dire si la loi n'est pas applicable, elle n'est pas appliquée. Et à ce moment-là, on incite les gens à considérer que se mettre hors la loi est tout à fait normal, puisque la loi est inapplicable. Le dieselgate, en partie, c'est une erreur d'appréciation sur ce qu'était la loi. Et la deuxième chose, c'est le danger de ce que j'appelais le pagano-gauchisme. Je parlais de la Suède, il y a eu un débat délirant cet hiver sur le fait de savoir s'il fallait pas interdire les aspirateurs pour revenir au balai, sachant que le balai était un moyen d'éviter l'électricité.
Alors ce débat débat nous avait échappé.
Et l'électricité qui, en Suède à l'époque, venant de Pologne, était extrêmement carbonée. Donc, il y a un moment où, effectivement, il faut avoir un discours qui soit un discours clair, cohérent et rationnel.
Et si je peux pousser un petit peu ma question sur le rôle des institutions et le climat, qu'est-ce que vous pensez de la récente revue stratégique de la BCE, qui elle-même a indiqué qu'elle allait se soucier du climat dans sa politique monétaire, à part dans les prochains trimestres et les prochaines années.
Banque centrale européenne.
Oui. Alors là, j'ai trouvé ça ridicule. Bon, que Madame Lagarde fasse baisser la température dans les couloirs de la BCE pour lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi pas. Mais chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Hein, je parlais de Baudelaire tout à l'heure. À titre personnel, j'ai réédité les fables de Florian, ce qui n'est pas de l'économie, ce qui prouve qu'on peut se mettre dans différents rôles. Mais Florian, donc c'est ce fabuliste qui a dit pour chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Le rôle de la BCE, c'est de lutter contre l'inflation, de faire en sorte que les États ne fassent pas faillite. Et ensuite, c'est à chacun de nous et aux politiques publiques organisées par les États de lutter contre le réchauffement climatique. Mais la BCE n'est pas un acteur.
C'est un peu étrange comme raisonnement, parce que contre le virus, tout le monde s'est mis autour de la table pour agir, y compris la Banque Centrale Européenne, et on en parlait au début de cette émission, la politique monétaire, et pour lutter contre le réchauffement climatique, vous dites non, chacun dans son couloir.
Chacun dans son couloir. Contre le virus, ça correspondait à la fois à un engagement de l'État sous forme de dette publique, donc là, la BCE était tout à fait appelée à agir, et dans des circonstances, il y avait des circonstances exceptionnelles prévues par les traités européens, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est pas des circonstances exceptionnelles. C'est notre vie au quotidien maintenant. Donc, il faut réagir de façon organisée et de façon permanente et régulière. La BCE, dans l'affaire du virus, elle s'appuyait sur le fait que la Commission, conformément à l'article 3 du nouveau traité sur les finances publiques, le TSCG, avait décrété que pendant 2 ans, nous étions dans des situations exceptionnelles. Donc, elle répondait à ça. Mais le réchauffement climatique, c'est pas, hélas, exceptionnel. C'est une œuvre de longue haleine.
Mais vous pensez pas que ça a quand même un impact sur la stabilité financière ou l'inflation, parce que ce sont les arguments de la BCE aujourd'hui, pour lesquels elle s'engage contre le réchauffement climatique.
Non, mais qu'elle soit par principe contre le réchauffement climatique, oui. Mais son discours sur l'inflation n'a de sens que lorsqu'elle verra poindre les éléments d'inflation. Elle est sur une théorie associée au réchauffement climatique à l'inflation. Là, pour l'instant, on en est à des déclarations de principe, et encore une fois, je pense qu'elle est à côté de sa mission, et elle ferait mieux de se concentrer sur sa mission, se poser des questions sur l'avenir du système financier, refaire des tests sur les banques. Je pense qu'il y a encore des problèmes dans le système bancaire et financier européen et que ça relève davantage de l'action de la BCE qu'une action sur le réchauffement climatique.
Eh bien voilà, c'est avec ce tacle à la Banque Centrale Européenne de Francfort que cette émission se termine. Merci à Jean-Marc et Daniel. Merci à vous tous de l'autre côté des ondes de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, ce sera peut-être un virage à 180 degrés puisque nous recevrons Aurélie Trouvé qui est économiste et porte-parole d'Attac. Il me reste à remercier Théo Raison, notre réalisateur, Henri Bérec à la technique et le Cercle des économistes. Bonsoir à tous.